Le gorille, chapitre 14. Paul poursuivit. Vous avez vu que Berwick enlevait sa femme de la rue d'Anjou et la faisait disparaître, au moment où il se préparait à m'offrir un remboursement dérisoire. Le but évident qu'il s'était proposé était de la mettre dans l'impossibilité de communiquer et de s'entendre avec moi. Mais quelle que fût la sévérité de la surveillance dont Laure était l'objet, et la défense de la laisser sortir du château, lui absent, Madame Berwick me fit passer un billet, par un moyen que ses argus n'avaient pas prévu. Ce fut la proximité de la route et du parc qui le lui avait fourni. Un facteur rural suivait le bord du seau de loup, et quelques mots tracés au crayon et enfermés dans une enveloppe affranchie à mon adresse furent jetés à cet homme, de la même façon que ceux par lesquels elle devait plus tard correspondre avec moi. Par là, j'appris le lieu de la séquestration et son objet. Cette séquestration avait quelque chose de sinistre. Elle ne pouvait durer que si Berwick nourrissait quelque sombre dessein. Je pris immédiatement la résolution de me rapprocher de Laure. J'avais été malade. J'étais à peine remis. La comtesse trouva très naturel que Billardel, prévenu par moi, me recommanda un séjour à la campagne, et cela le plus tôt possible. Aussi vis-je Blanche très empressée à favoriser ce changement d'air. Je me chargeais de découvrir à proximité de Paris une habitation proportionnée à nos moyens actuels, et je partis pour Clamart. J'y arrêtais dans la journée même le petit nid que Blanche et moi y habitons, et j'étudiais sans bruit les abords de la prison où Laure languissait avec ses propres domestiques pour geôliers. Ne pouvant me présenter chez elle, ni avoir l'air de la connaître, je dus faire un siège en règle avant de parvenir à l'apercevoir. La seule promenade qui lui fut permise, celle de son propre jardin, me la montra dolente, accablée, et ne prenant plus la peine de s'habiller pour errer dans les allées de son parc. Je ne pouvais naturellement lui écrire, et elle était bien éloignée de me croire là. Enfin, un jour, nos regards se rencontrèrent, d'un côté à l'autre du large fossé qui la séparait du monde, et nous pûmes reprendre la conversation. Je lui fis connaître la démarche de son mari, pour me rendre une somme considérable, dont il feignait de croire qu'il n'avait été délivré aucun reçu. Laure comprit tout de suite que c'était un moyen employé par Berwick de me faire avouer ma complicité dans cette affaire, mais je la rassurai en lui disant dans quels termes j'avais répondu. J'ajoutai que peu de jours après, j'avais fait savoir à Berwick le refus d'une tierce personne, auteur du versement des 300 000 francs, d'entrer en arrangement avec lui. « Vous avez bien fait, » me dit Laure, « car si vous aviez accepté ce que M. Berwick vous proposait, nous nous serions trouvés désarmés. Il n'aurait plus gardé aucun ménagement vis-à-vis de moi. » Ces ménagements, poursuivit Paul, ne devaient pas durer longtemps. Je ne vous raconterai pas par le menu, mes amis, mes rendez-vous avec Madame Berwick. Par eux, je fus tenu au courant de ce qui se passait dans la place. Le banquier n'avait pas obtenu de moi l'aveu de la créance, quoique bien persuadé d'ailleurs que j'étais le créancier, mais il avait appris à compter sur moi pour secourir sa femme dans les cas extrêmes. Avait-il de nouveaux besoins d'argent? Cela est probable, d'après l'insistance nouvelle qu'il mit à connaître le nom du bailleur de fonds. Il eut la constance d'exposer alors les avantages attachés aux fameuses parts de propriété qu'il m'avait offertes. Il persuada même à sa femme qu'il y aurait profit pour elle à accepter de ses parts de propriété en échange du reçu des 300 000 francs. Je ne fus pas surpris d'entendre Madame Berwick me demander si je n'avais pas eu tort de refuser. Tout compte fait, suivant elle, ce mode de remboursement pouvait mieux valoir que le néant. Je la détrompais. Quoi qu'il en soit, Berwick, furieux de trouver sa femme aussi opposée que moi à une liquidation de la dette qui lui permettait d'en contracter de nouvelles, il eut recours au moyen des lâches. Il lui donna 8 jours pour déclarer le nom du prêteur, puisqu'il tenait à effectuer le remboursement. À défaut de quoi, dans un transport de colère, il lui signifia carrément qu'il la tuerait. Elle prit peur. Elle le savait homme à accomplir sa menace. Non avec le bruyant éclat d'un assassin vulgaire, mais avec ses précautions abominables qui, sans égarer la justice, donne aux criminels l'espoir de l'impunité. Représentez-vous cet infortuné, enfermé vis-à-vis de son bourreau, dans une habitation vaste, mais presque déserte. L'indifférence et l'éloignement de la domesticité. Un vide d'un demi-kilomètre entre le château et les maisons du village, et vous comprendrez ce que j'ai éprouvé jour et nuit depuis lors. Or, j'étais avec vous. J'étais ici le surlendemain du jour où j'avais été sur le point de faire réussir l'évasion de l'or, entravée dans son accomplissement par l'apparition soudaine du valet qui garde à vue Madame Berwick. J'étais, dis-je, avec vous. Quand un journal, tombant ici le soir au milieu de notre causerie, me révéla le subterfuge infâme auquel Berwick avait recours pour forcer mon incognito. Il me prenait à partie dans un de ces échos à initiales transparentes dont j'étais obligée de reconnaître l'inspirateur, quoiqu'il puisse paraître invraisemblable qu'un mari mette en jeu l'honneur de sa propre femme. Voici au surplus l'article en question. Il n'est bruit en ce moment, dans les salons de la haute société parisienne, que d'une aventure dont Madame B., la femme d'un banquier bien connu, aurait été l'héroïne. Monsieur de B., dont la récente et subite retraite dans un quartier excentrique a donné lieu depuis quelque temps à des suppositions plus ou moins fondées, poursuivait, paraît-il, Madame de B. de ses assiduités. De son côté, Madame B. n'était pas insensible malgré la différence d'âge. Monsieur de B., du reste, ancien militaire, a encore fort belle prestance, malgré ses 50 ans. Toujours est-il que Monsieur B., ayant emmené sa femme dans sa propriété de C., Monsieur de B. les suivit, et avant-hier soir, à la nuit tombante, il tentait d'opérer, de concert avec elle, l'enlèvement de la jeune femme. Ici commence le côté comique de l'histoire. Un chien dénonça par ses aboiements la présence d'un inconnu à un valet qui se promenait au fond du parc. Et celui-ci arriva au saut de loup qu'il s'agissait de franchir juste au moment où la dame allait se laisser choir au bras de son ravisseur. Aussitôt alerte, tumulte, scandale, fuite de l'amant et arrivée du mari qui trouve sa femme en toilette de voyage et prête à lever le pied. On rapporte que Monsieur de B., qui est marié, avait déjà opéré le sauvetage d'un sac de nuit, qui contenait des objets indispensables. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de l'aventure, et leur dirons si Monsieur de B. est venu réclamer une récompense en rapportant au château le sac de nuit en question. « Que dis-tu de cela, Adrien ?» fit Méran, en passant à Monsieur de Vermont le journal qu'il venait de lire. J'ai vu ailleurs de semblables ordures, repartit le sceptique. Dans certains pays d'Amérique, cela se fait couramment et avec non moins d'effronterie. Cela ne se pratique pas encore avec impunité en France, repartit Paul avec emportement. Et malheur à l'auteur, quel qu'il soit de cette infamie. L'ayant lu, vous vous en souvenez, je levai brusquement la séance et je repartis pour la campagne. Méran, en sa qualité de général, se montrait d'autant plus froid que les situations étaient plus graves. « Il y a ici quelqu'un en mauvaise passe, dit-il. Mais qui ? » La réputation de Madame Berwick, dont on mettra le nom sur l'initiale incriminée. Berwick, qui évidemment ne se bat pas. Le journaliste, il se retranchera derrière Berwick. Il excipera, comme on dit, de sa bonne foi. Et si Paul pourfend le journaliste, le banquier reste debout. Une provocation, dit Adrien, n'atteint donc pas le coupable. Elle met Madame Berwick en cause, et elle n'expose que Paul. Il doit être pourtant possible de forcer Berwick à se battre, et je l'y forcerai. Dussé-je le souffleter publiquement et périodiquement. Tu iras en correctionnel pour voie de fait, lui dit Vermont. Et devant les tribunaux, le nom de ta pauvre Dulcinée sera livré en pâture. Est-ce là ton but ? Non, évidemment. Le général était pensif. Il y a, dit-il, une chose que je n'aperçois pas. Quel intérêt Berwick a-t-il à diffamer sa femme dans une feuille publique et à provoquer de la part de l'homme qui s'intéresse à elle des représailles inévitables ? Affaire de chantage, riposta Monsieur de Vermont. Avec le tendre intérêt que notre ami porte à sa fille, il paiera, pour faire taire, comme il a déjà payé pour sauver Madame Berwick d'un ignoble guet-apens. On n'a pas tous les jours 300 000 francs sous la main, ajouta Monsieur de Bruy avec une ironique tristesse. En attendant, messieurs, continua-t-il avec emportement, les faits se réduisent à ceci. L'or est aux mains d'un assassin, d'un empoisonneur, et l'or est ma fille. Elle n'a de protecteur que moi. Je tuerai le gorille, je tuerai Berwick. Parlons seulement des voies, moyens et armes. Vous serez naturellement mes témoins et je suis l'offensé. Dieu sait, dit le général, si je respecte tes sentiments, ton anxiété, ta colère. Mais voilà de ces extrémités auxquelles l'amour nous porte, et que pour ma part, j'avoue n'avoir jamais connues. Et encore s'il s'agissait de Charlotte elle-même, qui n'est plus. Mais c'est de sa fille qu'il s'agit, et sa fille ne porte pas ton nom. C'est pourtant le seul enfant qui me reste, repartit le comte avec un sanglot dans la gorge. Tu n'as pas comme moi, Gustave, perdu les deux autres. J'aimerais mieux pour toi, répliqua Méran, que tu n'eusses jamais rencontré ni adopté cet enfant-là. Mais revenons à notre sujet. Il y a devant nous, comme tu le dis, un gorille qui torture une femme qui est ta fille. Il faut tuer le gorille pour la sauver. Eh bien, nous allons au journal, nous demandons à parler à l'auteur de l'écho. On nous le nomme, ou, par un scrupule que je conçois, le directeur du journal accepte la responsabilité de l'article. Nous l'examinons avec lui. Il appert de là que le racontard est venu du dehors, et nous sommons le directeur d'en dénoncer l'auteur, ou de se placer en face de toi. À compter de ce moment, nous avons livré deux noms que nous aurions tenus à terre. Mais de quel droit irions-nous demander raison à Berwick, qui n'est pas moins outragé que vous deux? Il dira ne rien savoir. Berwick sait tout, allez, dit Monsieur de Breuilly. Lui seul a pu trahir ce que lui seul sait. Le soufflet que je lui réserve n'aura pas besoin de commentaires. Mais alors, dit Adrien, de par ce soufflet, il devient l'offensé. Et que m'importe, pourvu qu'il meure de ma main. Épée, sabre de cavalerie, pistolet, carabine, tout ce qu'il voudra, tout m'est égal. Et si l'on veut successivement avec toutes ses armes, car c'est d'un duel à mort qu'il s'agit. Les Américains, dit Adrien, ont une manière de trancher la difficulté. Ils partent chacun avec une carabine chargée de deux points opposés d'une forêt, et ils vont devant eux jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Le premier qui aperçoit l'autre lui envoie une balle dans la tête, et tout est dit. Cela, objecta le général, dans nos idées françaises ressemblerait fort à un assassinat, vu l'absence de témoins. Un braconnier à l'affût tirant sur un garde ne procède pas autrement. Soyons sérieux, reprit Paul. Le duel sera tout ce que vous voudrez, français, américain ou allemand, pourvu qu'il ait lieu. Dictez-en les conditions, je m'y range par avance. Méran, voyant à quel paroxysme de fureur Paul était graduellement arrivé, lui dit alors avec la douceur et la fermeté d'un homme à qui son grade assure partout la préséance. Veux-tu t'écarter un moment ? Pour laisser à Adrien et à moi la possibilité d'échanger quelques mots à ce sujet. De grand cœur, répondit Monsieur de Bruy. Je vais passer un moment dans la salle de billard et attendre vos conclusions. À ces mots, il sortit, et l'on entendit rouler furieusement les billes sur le tapis vert. Paul, dit Adrien au général, se croit déjà en face de l'ennemi. Méran secoua la tête, et les deux hommes se parlèrent quelque temps à voix basse. Tout à coup, le général ouvrit la porte de la salle de billard, et suivi de Monsieur de Vermont, il dit à Monsieur de Bruy. « Paul, tu nous as pris pour arbitre. Tu as accepté notre décision par avance. Eh bien, ce duel est tout bonnement impossible. Il n'aura pas lieu. » Le comte parut d'abord atterré. Puis il dit. « Impossible n'est pas français. Il s'agit d'un père qui veut venger et sauver sa fille. Eh bien, répliqua le général, c'est sur elle et sur toi que tu déchargerais ton arme, tu n'atteindrais pas Berwick. Si tu frappes Berwick au visage, ajouta Monsieur de Vermont, tu produis inévitablement un scandale, car bâti comme il est, au lieu de riposter, il ira se plaindre. Et alors c'est Madame Berwick qui aura reçu le soufflet. Par respect pour l'amitié, Paul baissa la tête. Mais il ne sortit plus de sa bouche un mot qui pût faire penser à ses deux amis qu'il avait ratifié leur sentence. À la suite de cette conversation, le comte retourna à Clamart. Mais dès que Madame de Breuilly se fut endormie et qu'Annette se fut retirée dans sa chambre, il sortit, armé, pour aller rôder le reste de la nuit autour du château. « À tout événement, pensa-t-il, je serai là ».